France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. L'industrie française qui cale, il y a eu davantage de fermetures que d'ouvertures d'usines l'an dernier dans notre pays, alors que la tendance s'était inversée ces dernières années. Exemple à Calais dans un instant, et puis on va détailler ces chiffres à partir de 13h30 secteur par secteur, voir notamment quelles sont les entreprises qui recrutent. À suivre encore, les aveux du meurtrier présumé de Louise à Longjumeau, un jeune homme connu pour ses accès de violence dans sa famille. Les agents d'un tribunal submergés par les insultes et les menaces en ligne, ça se passe à Melun. La droite française qui se déchire. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Vous avez aimé Chirac Balladur, vous aimerez Retailleau-Wauquiez.
La guerre des chefs est déclarée. Le ministre de l'Intérieur a lancé ce matin très activement sa campagne pour la présidence du parti LR, aussi convoité par Laurent Wauquiez.
A tout de suite pour vos explications. Nous serons également dans les prochaines minutes à Marseille. Tapis rouge ce matin pour le premier ministre indien, lui qui est de plus en plus autoritaire dans son pays. Direction la Russie également. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Jérôme.
Échanger des territoires avec l'Ukraine, c'est niette, dit Moscou.
Oui, pour Moscou, c'est une solution impensable qu'a proposé Volodymyr Zelensky. Hier soir, les forces ukrainiennes présentes dans la région de Koursk seront expulsées ou anéanties, a dit le Kremlin ce matin.
A tout de suite en direct de Moscou, sans oublier les conseils cinéma d'Alexis Demeyer dans une vingtaine de minutes. 13h50, c'est la France, Éric Fotorino et un hommage au journaliste Jean-François Kahn qui nous a quittés il y a quelques semaines. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, la comédienne Alice David et l'électro du groupe Goldfrapp. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Est-ce un retournement ou une simple panne? Trop tôt pour le dire, ce qui est vrai, c'est que le nombre d'usines en France a diminué l'an dernier et c'est une première depuis 2020. Voilà ce que nous apprennent aujourd'hui nos confrères du réseau ICI et du journal L'Usine Nouvelle qui signent cette enquête. Le mouvement s'est d'ailleurs accéléré ces dernières semaines. Illustration à Calais où l'entreprise textile Marc et Balzan va fermer son site. L'accord entre syndicats et direction en vue du plan social a été présenté aux salariés avant-hier. Ils sont 66 et ils confectionnaient jusqu'ici des uniformes pour l'armée et pour la gendarmerie. Mais l'État vient de confier l'un de ses marchés à une entreprise française concurrente qui, elle, produit à Madagascar. Jeanne de Butler est allée à la rencontre des ouvrières.
Elles sont quelques-unes à fumer leurs cigarettes à l'abri sous le porche. Marie-Françoise, ça fait 18 ans qu'elle porte sa blouse de couturière.
On a donné pendant des années, on a donné, 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 on a toujours été là et tout. Et on n'est pas reconnu à notre juste valeur, j'ai l'impression. On a perdu le même, on a perdu un marché, il n'y a pas quoi. Et après les négociations et tout, et puis c'est l'engrenage quoi. On a quand même une fierté et puis là, bah, tout s'en va quoi. On n'est pas la première, on ne sera pas la dernière à partir. Hein. Il y a l'usine de tulle, après il y a eu la confection, il y avait énormément de confections. Maintenant, il n'y a plus rien, quoi.
Marc et Balzan, c'était le défilé du 14 juillet. Les masques aussi, pendant le Covid. Kelly a déjà préparé son CV.
On nous a proposé des postes, mais c'est vraiment pas implanté à Calais. Le premier, il est à Montier-Chaume, à Châteauroux.
Là, on ressent beaucoup de colère parce qu'en plus, ça va suivre, en fait. Hein. Il y est arrivé un moment, tout le monde va délocaliser.
Toutes, elles en veulent au patron et à l'État. Myriam, 26 ans d'usine.
Comme Marc et Balzan, et même Noyon, ils étaient 300. Maintenant, Noyon, on se retrouve une trentaine. Et nous, on est, chez Marc et Balzan, on était une 300 tout au début. Il y a eu beaucoup de pertes, ouais.
Y a pas, c'est la délocalisation et c'est les pays étrangers qui nous bouffent. Hein.
C'est, sûr,
c'est moins cher, voilà quoi, on peut pas lutter contre ça.
Myriam ne sait pas encore ce qu'elle va faire, chef d'équipe, les filles, c'est sa famille, alors elle va les accompagner jusqu'au bout avant de chercher du travail ailleurs.
Reportage ICI Nord, parmi les secteurs d'activité qui recrutent, l'aéronautique, le luxe ou encore la défense. Nous détaillerons tout cela région par région, secteur par secteur, à partir de 13h30 avec nos invités et avec nos confrères du réseau ICI. Après un peu plus de 24 heures de garde à vue, le principal suspect du meurtre de Louise a donc fait des aveux la nuit dernière devant les enquêteurs. Cet homme de 23 ans a reconnu avoir poignardé la fillette de 11 ans vendredi dans un bois de Longjumeau dans l'Essonne, à quelques centaines de mètres seulement de son collège. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Les enquêteurs l'ont confronté aux nombreux éléments recueillis ces derniers jours.
Oui, des aveux obtenus au fil des heures de garde à vue. Un suspect d'abord confronté aux images de vidéosurveillance très nettes où on le voit aux côtés de Louise. Un suspect confronté ensuite aux témoignages successifs de ses proches qui ont eu des versions discordantes avant que la petite amie du jeune homme finisse par raconter ce qu'il lui avait confié le week-end dernier, à savoir qu'il avait avait commis un crime, qu'il avait poignardé quelqu'un. Et puis donc, hier à la mi-journée, les résultats des prélèvements ADN sont arrivés. Son ADN à lui, retrouvé sous les ongles de la jeune fille, ce qui peut laisser penser qu'elle a tenté d'abord de se défendre avant qu'on lui porte des coups avec une arme blanche, arme du crime qui hier soir n'avait pas encore été retrouvée malgré la perquisition au domicile du suspect. Les enquêteurs cherchent depuis le week-end dernier à comprendre pourquoi Louise, jeune fille de 11 ans, il est question d'une grande colère après une partie de jeux vidéo en ligne, mais ce n'est pas la seule piste explorée, confiée ce matin une source proche de l'enquête.
Et les enquêteurs, Emmanuel, s'intéressent aussi à son contexte familial.
Alors on sait que les parents du suspect ont été placés en garde à vue dès hier matin, car leur déclaration, je vous l'ai dit, surtout celle de la mère, comportait trop d'incohérences. Et puis il y a eu le récit de la sœur du jeune homme qui, elle, n'a pas été placée en garde à vue. Entendue comme témoin, elle n'a pas caché le profil d'un grand frère colérique, violent. Elle, qui il y a quelques années avait déposé une main courante, elle dont la chambre était protégée par un verrou, comme les enquêteurs ont pu le constater quand ils sont allés perquisitionner le domicile de la famille.
Information signée Emmanuel Leclerc. La justice des mineurs est au cœur des débats à partir de ce soir à l'Assemblée nationale, avec l'examen du texte défendu par l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. Il prévoit de durcir les sanctions envers les parents de mineurs délinquants ou encore de créer une procédure de comparution immédiate pour les mineurs de 16 ans pour des faits graves. Ce texte avait été considérablement détricoté en commission par la gauche. Sortir les mineurs de la délinquance, c'est l'une des missions de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse qui accompagne ces jeunes vers un parcours scolaire ou professionnel. Mais les moyens manquent, dénoncent ces agents, et notamment à Marseille, où ils manifestaient ce matin, Mathilde Vinceneuf.
Oui, ils sont une vingtaine avec une grande banderole syndicale devant l'entrée du tribunal de Marseille. Des éducateurs qui dénoncent le fait que ce projet de loi vise à traiter les mineurs de plus de 16 ans comme des majeurs, avec des comparutions immédiates et la suppression des atténuations de peine, l'excuse de minorité pour les mineurs qui commettraient les faits les plus graves. Mais il ne faut pas sanctionner les mineurs comme des adultes, martèle Alexia Père, psychologue éducatrice et déléguée du syndicat SNPES-PJJ.
C'est qu'un adolescent à 16 ans n'est pas un adulte. Son fonctionnement psychique, son développement psychique n'a pas atteint sa maturité. Donc, à partir de là, on ne peut pas dire qu'il est un adulte et le juger comme un adulte. Le jeune a besoin de temps pour prendre conscience de l'acte qu'il a commis et puis pour prendre conscience de l'existence de la victime et une fois de plus se saisir de l'aide que nous lui proposons.
Les éducateurs mobilisés demandent davantage de mesures protectrices et éducatives pour lutter contre la délinquance des mineurs et non pas une loi toujours plus sévère. Ils demandent aussi davantage de moyens alors que plusieurs postes d'éducateurs sont gelés dans le département malgré les promesses de renfort.
Mathilde Vinceneux à Marseille pour Inter. La présidente du tribunal pour enfants de Bobigny en Seine-Saint-Denis fait le même constat pour son département. Réponse de la direction de la PJJ qui rappelle que la tendance du budget est à la hausse, passée de 740 millions d'euros en 2020 à 950 millions en 2024. À Lille, de nouvelles fissures constatées à l'hôtel de police inaugurée en 2008. Un deuxième bâtiment va être évacué. Fissures qui sont dues à des malfaçons. Il y a un mois, c'est le bâtiment du RAID, toujours à Lille, qui pour les mêmes raisons avait dû être vidé. Des travaux doivent débuter en avril selon la préfecture. Et voilà un dossier pour le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, même s'il va être bien occupé dans les prochaines semaines. Car en plus de sa fonction de ministre et des priorités qu'il s'est fixées, lutte contre l'immigration illégale ou encore lutte contre le narcotrafic, le voilà lancé dans une autre bataille. Bruno Retailleau est candidat à la présidence du parti Les Républicains. Élodie Fauré, vous êtes avec nous. C'est une déclaration de guerre faite à l'autre prétendant, le député de Haute-Loire, Laurent Wauquiez.
Oui, et la réponse n'a pas tardé. Bruno Retailleau prend la lourde responsabilité d'ouvrir une guerre des chefs à droite, indique l'entourage de Laurent Wauquiez. Le patron des députés LR avait déjà prévenu lors d'un dîner en tête-à-tête avec le ministre de l'Intérieur. Chacun sa place. Retailleau à Beauvau, Wauquiez à la présidence pour ne pas rallumer une guerre dévastatrice. Et à droite, les mots ont un sens dans un parti meurtri par les divisions, les trahisons et la terrible bataille de succession Fillon-Copé qui a traumatisé toute une génération de militants. Pas de quoi dissuader Bruno Retailleau qui a lancé de façon méthodique les hostilités ce matin. Courrier aux militants, message personnel à tous les patrons de fédération et première rencontre ce soir avec des jeunes LR. Laurent Wauquiez, lui, sera demain soir à Valence en réunion publique et ses troupes battent le rappel pour remplir la salle.
Guerre ouverte à droite donc, ça va encore fragiliser le gouvernement.
Alors ce matin, les proches de Laurent Wauquiez le jurent, il n'y aura pas d'interférence. Mais on voit mal comment cette guerre ne pourrait pas tendre un bloc central déjà fragilisé et déjà traversé par d'autres batailles d'ego, avec une difficulté tout de même pour Laurent Wauquiez à l'Assemblée. Il n'a pas vraiment de troupes en tant que telles prêtes à obéir au doigt et à l'œil. Bruno Retailleau, ex-patron des sénateurs LR, possède, lui, à la Chambre haute, une véritable écurie.
Élodie Forêt pour ce décryptage. Vous nous parliez, Élodie, de Bruno Retailleau. Il y a quelques jours, tenté de faire expulser un influenceur algérien, Doualem, accusé d'incitation à la haine. Mais cet homme a dû être relâché la semaine dernière, car son obligation de quitter le territoire français a été annulée par le tribunal administratif de Melun, et conformément à la loi, une loi qu'il faudra changer, a d'ailleurs depuis reconnu le ministre. Mais depuis cette décision, les agents de ce tribunal sont victimes de harcèlement et de menaces répétées. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour.
L'un d'eux, auditeur d'Inter, l'a d'ailleurs dénoncé ce matin, c'était en direct.
Oui, Christophe, lui-même magistrat au tribunal administratif de Melun, il appelle le Standard pour expliquer que la décision de ses collègues n'est que la stricte application de la loi et il conclut son intervention par ces mots.
Depuis maintenant 3-4 jours au tribunal administratif de Melun, c'est un déchaînement de haine sur les réseaux sociaux, de toute la fachosphère. La présidente, on a appelé à la pendre au écourt, le premier vice-président à le décapiter, etc. Il y a même des individus qui ont été sur Internet, à partir d'un organigramme, essayer de penser qui pouvait être l'auteur de ce jugement. Voilà où on en est aujourd'hui.
Des recherches à partir d'un organigramme, car la décision du tribunal administratif avait été anonymisée justement pour éviter de donner des noms en pâture, mais des noms et des photos circulent malgré tout sur les réseaux sociaux, sur la plateforme X notamment, une justice qualifiée de laxiste par des comptes anonymes. Le sujet a été évoqué il y a deux jours lors de l'audience solennelle de rentrée du tribunal administratif de Melun. Sa présidente a rappelé que le juge n'est là ni pour plaire ni pour déplaire. Les faits sont suffisamment graves pour avoir déclenché une prise de parole publique rare du Conseil supérieur des tribunaux administratifs qui dénonce avec force, je cite, les attaques dirigées nominativement contre des juges et des avocats. Les avocates de l'influenceur algérien ont également reçu des menaces de mort. Des plaintes ont été déposées par les magistrats administratifs. Procédure suivie par le pôle national de lutte contre la haine en ligne, nous dit ce midi le procureur de la République de Melun.
Delphine Evenou. Et puis cette conséquence du budget 2025 et des efforts qui sont demandés aux collectivités locales, des départements vont augmenter le plafond des taxes sur les transactions immobilières. Cela va passer de 4,5% à 5% à Paris à partir du 1er avril. Ce sera plus 0,5% également dans le département de Côte d'Or, selon son président François Sauvadet.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Marseille souhaite la bienvenue. C'est écrit aujourd'hui à la une du journal La Provence, mais en langue hindi, puisqu'il s'agit pour le quotidien marseillais de saluer le Premier ministre du pays le plus peuplé du monde, l'Inde. Journal La Provence, rappelons-le, propriété de l'homme d'affaires marseillais Rodolphe Saadé, qui est aussi le propriétaire de l'armateur CMA-CGM. Narendra Modi, donc, est en visite à Marseille depuis ce matin, accompagné du président de la République Emmanuel Macron. Les deux hommes mettent en scène leur proximité et leur indépendance vis-à-vis de la Chine et des États-Unis. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Vous suivez cette visite pour Inter. Marie, à nouveau ce matin, les deux hommes ont fait un saut d'amabilité.
Oui, Emmanuel Macron et Narendra Modi, avenue du Prado, ne se lâchent plus les mains pour inaugurer ensemble le nouveau consulat indien, guirlande de fleurs en cascade sur la façade. Devant une centaine de personnes de la communauté indienne en France, invitées par l'ambassade indienne pour faire la claque et acclamer l'autoritaire Premier ministre Modi. Modi, 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 Modi. Puis direction la tour CMA-CGM de l'armateur français Rodolphe Saadé. 12e étage, salle de contrôle, celle qui projette la position des bateaux de commerce en temps réel. Ici, pour parler de ce projet, de nouvelles routes commerciales censées relier l'Inde à l'Europe. Port d'arrivée, Marseille. Devant son homologue, le président français chante les vertus de sa ville de cœur, comme il dit.
And Marseille could be the entry point of the whole European market. And Marseille is one of the biggest hubs.
Marseille, point d'entrée pour tout le marché européen, vante-t-il. Mais pour l'instant, ce projet de nouvelle route des épices annoncé en 2023 est au point mort, élan interrompu par la guerre au Proche-Orient, même les études de faisabilité n'ont pas débuté. Qu'importe, les deux chefs d'État sont là pour afficher leur volontarisme, mettre en scène encore la complicité entre Paris et New Delhi lors de cette visite à Marseille qui s'achève sans annonce majeure, ni donc sur le corridor commercial, ni sur les contrats d'armement en cours de négociation entre l'Inde et la France.
Marie Mollet en direct de Marseille avec les moyens techniques d'Alexandre Abergel. Bonjour Frédéric Saïs.
Bonjour.
Rédaction internationale de Radio France. L'Inde, premier partenaire de la France en Asie, certes, mais je voudrais qu'on détaille avec vous ce que fait Modi dans son pays. On parle d'une évolution autoritaire de son pouvoir.
Oui, depuis 11 ans que Narendra Modi est à la tête du gouvernement, les contre-pouvoirs ont été contestés, rabotés. À l'image de la Cour suprême qui a dû accepter de voir l'exécutif s'immiscer dans la nomination des juges, à l'image de l'opposition aussi, plusieurs leaders inquiétés par des procédures judiciaires téléguidés selon eux, les médias, également victimes de campagnes d'intimidation. Après un documentaire critique, les locaux de la BBC ont été perquisitionnés, des journalistes indiens régulièrement arrêtés et plusieurs correspondants étrangers ont aussi été privés de visa de travail, autrement dit invités à partir. Cet autoritarisme s'appuie sur une rhétorique de l'homme fort ainsi qu'un nationalisme hindou sans complexe. Narendra Modi a banni l'anglais de ses grands discours au profit de l'hindi et il favorise ouvertement l'hindouisme pratiqué par 80% de la population, au détriment des minorités, en particulier musulmanes. Lors de sa dernière campagne, il avait d'ailleurs inauguré en grande pompe un temple hindou construit sur l'emplacement d'une ancienne mosquée.
Merci Frédéric Saïs. Cet après-midi, le Premier ministre indien décolle pour les États-Unis. Entretien prévu avec Donald Trump pour parler droits de douane particulièrement élevés en Inde. Hier soir, c'est le roi de Jordanie qui a été reçu à Washington. Il a dit son opposition au déplacement forcé des Palestiniens de Gaza vers son pays, c'est la même position pour l'Égypte. Et ce matin, le mouvement islamiste Hamas remercie publiquement ces deux pays. Il veut négocier. Le président ukrainien le répète dans chacune de ses interviews ces derniers jours. Et hier soir, Volodymyr Zelensky est allé encore plus loin en évoquant un échange possible de territoire avec la Russie pour mettre fin au conflit qui dure depuis près de 3 ans. Réponse de Moscou ce matin. On vous retrouve en direct, Sylvain Tronchet. C'est tout simplement hors de question.
Oui, c'est niet. Clairement, pour Moscou, pour le Kremlin, l'idée même d'un échange de territoire avec l'Ukraine est tout simplement inimaginable. Interrogé lors de son point presse quotidien, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a été très clair ce matin.
C'est impossible. La Russie n'a jamais discuté et ne discutera jamais de l'échange de ces territoires. Bien entendu, les unités ukrainiennes seront expulsées de ce territoire. Toutes celles qui ne seront pas anéanties seront expulsées.
Réponse sans surprise. Dans la matinée déjà, l'ancien président Dmitri Medvedev avait jugé cette idée absurde. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, traitant même la proposition de Volodymyr Zelensky par la dérision. Il contrôle un territoire d'un mètre sur deux à Koursk. Il fait ses déclarations pour cacher l'ampleur du désastre, écrit-elle. Sur le papier, les Russes, c'est vrai, ont beau jeu de souligner le déséquilibre qui existe. L'armée russe contrôle près de 20% du territoire ukrainien, 110 000 km², plus de 240 fois la taille de la superficie contrôlée par l'Ukraine en Russie, à peine 450 km². Alors, on peut toujours se dire que pour Moscou, malgré tout, la présence des forces ukrainiennes sur son territoire est un problème. Il y a 120 000 déplacés, des habitants exaspérés par la situation, des milliers de personnes dont on est sans nouvelles. Cela crée une situation tendue dans la région de Koursk, mais Moscou ne semble pas s'en soucier énormément.
Sylvain Tronchet à Moscou pour Inter et à l'instant le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, appelle les pays européens de l'OTAN à dépenser beaucoup plus pour leur défense. Cette guerre sur le sol européen a rebattu les cartes, on le sait, en matière énergétique. Les Européens ont diminué leurs importations de gaz russe et regardent d'un autre œil l'énergie nucléaire. Eh bien, les patrons veulent pousser l'avantage. Le patron du MEDEF français réunissait ce matin à Paris 15 de ses homologues européens. Bonjour Valentin Bertrand.
Bonjour.
Ils veulent que l'Union européenne continue de considérer le nucléaire comme une énergie décarbonée.
Oui, avec une échéance toute proche, le Green Deal Industrie, le pacte européen pour une industrie verte attendu dans 2 semaines, un cadre sur lequel le grand patronat veut peser avec une ligne claire, des objectifs précis et en évitant les revirements à 180 degrés. Message délivré ce matin par Patrick Martin, le président du MEDEF.
Face à l'idéologie, face aux postures et aux émotions, nous avons un atout de taille. Le nucléaire, nous nous devons d'imposer la rationalité et le temps long autour de visions stratégiques partagées, claires, stable et assumé.
Dans la bouche des patrons, le nucléaire doit compléter le développement des énergies vertes, ligne de fracture avec les gouvernements allemands et espagnols. Alors pour cela, les 15 membres de cette alliance patronale pour le nucléaire espèrent un soutien politique et financier aux nouvelles générations de réacteurs, y compris dans les pays comme le Danemark où 80% de l'électricité est verte. Troll Ranis est le vice-président du patronat danois.
Nous ne sommes plus compétitifs face aux États-Unis ou la Chine, surtout quand on parle du coût de l'énergie. On doit changer la donne et retrouver de la compétitivité.
Des discussions qui se sont déroulées avec un absent de taille, l'Allemagne. Ce sujet est particulièrement clivant dans le pays en cette période d'élections législatives. Alors après cette première pierre posée ce matin, un prochain rendez-vous se désigne déjà en fin d'année à Varsovie.
Merci Valentin Bertrand. Et ce matin, le vice-président de la Commission européenne, le français Stéphane Séjourné, annonce que l'hydrogène bas carbone qui est issu de cette énergie nucléaire va être inséré dans le pacte européen pour une industrie propre. La filière nucléaire française le réclamait depuis des mois. Interview de Stéphane Séjourné à nos confrères de West France. Un nouveau patron pour Aéroports de Paris. La nomination de Philippe Pascal a été validée ce matin par le Parlement. Il est aujourd'hui directeur financier de l'entreprise qui est contrôlée à 50,6% par l'État. Dans le ciel de Corrèze et des départements voisins, voilà un appareil qui va manquer. Le détachement aérien de la gendarmerie d'Aigleton, nous sommes dans l'est de la Corrèze, ce détachement va fermer temporairement cette année et donc perdre son hélicoptère qui permettait pourtant aux gendarmes de se projeter dans 8 départements. Michael Chailloux, nos hélicos sont trop peu nombreux et surtout trop vieux.
L'écureuil B1, c'est le nom de cet hélicoptère qui est attribué au détachement aérien d'Aigleton, date d'une quarantaine d'années. Or, le parc des hélicoptères en France, un peu vieillissant, doit subir un turnover. On les remplace au fur et à mesure. Un jeu de chaises musicales auquel s'ajoute un impératif de moyens. Car l'État a besoin de cet hélico pour aller lutter contre l'immigration irrégulière dans le nord de la France ou en Outre-mer. Le détachement devrait donc fermer environ 2 mois dès mars prochain, ce qui provoque l'inquiétude des élus locaux. Le député François Hollande a écrit au ministre de l'Intérieur pour lui demander de maintenir les moyens en Corrèze, sachant que l'écureuil, c'est son petit nom, volait pratiquement tous les jours sur les 8 départements aux alentours comme le Puy-de-Dôme ou le Cantal. Du côté de la gendarmerie, on se veut rassurant, les hélicoptères proches, ceux de Limoges et de Mérignac, pourront assurer une forme de compensation sur ces mois-là et aucune fermeture définitive du détachement n'est prévue alors qu'il va fêter ses 50 ans d'existence en septembre prochain.
Précision signée ici Limousin. Le handball français est bouleversé après la disparition lundi de l'une de ses joueuses professionnelles, Gemina Cabella, 21 ans, gardienne du club de Plan de Cuc dans les Bouches-du-Rhône et originaire du département du Val-d'Oise. Elle est morte subitement d'une méningite, une méningite bactérienne à méningocoque. Elle avait pourtant été admise à l'hôpital dès dimanche, quelques heures seulement après les premières alertes. Et ce décès rappelle que cette maladie circule encore. La vaccination des nourrissons a été rendue obligatoire en 2023. Elle l'est depuis le 1er janvier dernier et c'est une bonne chose, estime Jimmy Voisine, président de l'association de patients Méningite France. Il a perdu sa fille d'une méningite il y a 25 ans.
C'est pas une maladie rare. La bactérie, le méningocoque, se transmet par la salive, les postillons. Quand les personnes, fin 2022, ont eu la possibilité, au moment de Noël et le Nouvel An, de se retrouver en famille, de faire la fête du fait que le confinement était levé, ça a favorisé la transmission de la bactérie. Et c'est ce qui a fait, donc, au début de l'année 2023, donc, une augmentation importante de cas de méningite. C'est là que les autorités ont fait évoluer le carnet vaccinal. L'obligation vaccinale existe depuis le 1er janvier 2025. C'est en 2023 que les autorités ont pris la décision. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que la vaccination pour les jeunes, les ados, soit obligatoire et remboursée. Là, la population jeune est plus à risque du fait des lieux collectifs, des lieux de transmission du méningocoque. Un jeune qui à 15 ans se fait vacciner, il sera couvert jusqu'à l'âge de à peu près 25 ans.
Jimmy Voisine au téléphone de Rémi Brancato. L'université de Corse, elle, va proposer à partir de septembre prochain une deuxième année d'études de médecine suivie d'une troisième année en 2026. Jusqu'ici, les étudiants devaient rejoindre le continent après leur première année. Cela devrait permettre de lutter contre la désertification médicale qui menace l'île, estime l'université. Ce 13-14 sera en direct de Corse demain pendant une heure pour parler déserts médicaux mais aussi création d'un CHU sur l'île. Le cinéma.
Moteur.
T'as de bons yeux, tu sais.
Avec Alexis Demeyer et ses conseils. Bonjour Alexis.
Bonjour Jérôme.
Première recommandation cette semaine, un western intitulé Les Damnés.
Oui, le réalisateur Roberto Minervini, venu du documentaire, nous plonge ici en pleine guerre de sécession dans un régiment de soldats volontaires de l'Union chargé de cartographier l'Ouest américain.
This land has it all. Think it'd be a great life, raise a family. I'm looking forward to that day.
L'action, tirée d'une histoire vraie, se déroule pendant l'hiver 1862 et à mesure que les soldats progressent, ou plutôt se perdent, les paysages enneigés remplacent les plaines sablonneuses. Dans la lignée des récents westerns de la papesse du ciné indé Kelly Reichardt, Les Damnés propose une version déconstruite de ce genre cinématographique qui incarne l'Amérique à lui tout seul. Pour ne rien gâcher, cette chronique d'un fiasco annoncé est filmée avec une sensibilité et un art du cadrage prodigieux.
Vous avez beaucoup aimé également le biopic animé Hola Frida.
Hola Frida, des murs se dressent devant toi. Hola Frida.
La chanteuse Olivia Ruiz qui signe la bande originale mais qui prête aussi sa voix à Frida Kahlo dans ce film d'animation haut en couleur qui se concentre sur l'enfance et l'adolescence de la future superstar de la peinture mexicaine. Entre la maladie et le harcèlement scolaire, la jeunesse de la jeune Frida est douloureuse, mais son imagination et sa créativité lui servent de carapace.
Autre coup de cœur cette semaine, Alexis, pour le documentaire « Les oubliés de la Belle Étoile ».
Oui, la Belle Étoile, c'est le nom d'un centre de redressement catholique de Savoie où des milliers de jeunes garçons furent envoyés et maltraités des années 50 aux années 70.
Pourquoi des coups à répétition? Parce qu'on était quand même des mômes.
C'était des tortionnaires, c'était pas des chefs ni un curé.
La jeune réalisatrice Clémence Davigo filme Dédé, Michel et Daniel, des anciens de la Belle Étoile, qui espèrent obtenir les excuses de l'Église et pourquoi pas réparation. Ce documentaire bouleversant est vraiment à ne pas rater.
Le dernier film de Costa Gavras, en revanche, ne vous a pas totalement convaincu?
Oui, dans Le Dernier Souffle, le cinéaste désormais nonagénaire évoque la fin de vie, comme Pedro Almodovar il y a quelques semaines ou François Ozon en 2021. Costa Gavras adapte ici un livre de Régis Debray, l'histoire d'un écrivain hypochondriaque qui s'immerge dans un service de soins palliatifs.
Pourquoi voulez-vous rendre quelque chose qui est à vous, à quelqu'un que vous ne connaissez pas?
Il n'est pas ici, lui.
Oui, non, il est philosophe.
Le philosophe, c'est Denis Podalydès, le médecin, c'est Kad Merad. Outre les faiblesses narratives et la direction d'acteurs un peu aléatoire, on peine à percevoir les intentions esthétiques de ce grand réalisateur qui se complaît ici dans un drame bourgeois classico-classique, pour ne pas dire naïf.
Quoi d'autre à l'affiche, Alexis, cette semaine?
Avec en salle également The Brutalist, ce drame de 3h30 avec Adrienne Brody dans le rôle d'un architecte survivant de la Shoah, La vie en gros, un film d'animation tchèque sur la grossophobie, et Bridget Jones, folle de lui, le quatrième épisode des aventures de la londonienne, désormais quinquagénaire.
Merci Alexis Demeyer, je vous dis à la semaine prochaine, et puis des nouvelles de Violette d'Orange qui vient de boucler son Vendée Globe, fidèle, vous le savez, de ce 13-14. Elle va poursuivre sa saison 2025 avec une autre navigatrice, Samantha Davis. Elles participeront notamment ensemble en octobre sous les couleurs d'Initiative Cœur à la Transat Café L'Or, départ du Havre, arrivée en Martinique, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure la météo de Sébastien Léas. Puis à 13h30, on va détailler la carte de France des fermetures et des ouvertures d'usines. On a le détail 2024. Les chiffres sont mauvais. Hein. Je vous l'ai dit, ils sont aussi mauvais pour le mois de janvier 2025. On va faire le point région par région, département par département avec nos confrères d'ici pour voir les régions qui s'en sortent le mieux, pour voir les secteurs aussi qui s'en sortent le mieux. 13h45, notre feuilleton, l'intelligence artificielle dans le quotidien des habitants de Chartres qui, vous l'entendrez, ne sont pas toujours convaincus. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Éric Fotorino du 1 Hebdo et Frédéric Pommier. Bonjour.
Bonjour Jérôme.
Éric, vous avez rendu hommage et publiquement cette semaine à Jean-François Kahn et vous teniez à le faire à nouveau aujourd'hui.
Oui, on lui devait le lancement de magazines qui ont marqué leur époque, l'événement du jeudi ou Marianne, sans oublier les nouvelles littéraires et aussi d'innombrables débats et émissions à la radio comme à la télé où il brillait par son sens de la répartie et sa grande culture.
Ce que l'on doit à Jean-François Kahn. Ce sera avec vous dans une vingtaine de minutes et avec vous Frédéric, une comédienne.
Il s'agit d'Alice David que l'on a découverte en 2011 dans la première saison de la série. Bref,
et que l'on retrouvera dès vendredi sur Disney+, dans la deuxième saison de la série. Bref, entre-temps, on a pu la voir dans une douzaine de films. Et avec elle, nous écouterons le duo électro Goldfrapp avec un morceau qui reste associé pour elle à ses débuts au théâtre.
Bref, on vous retrouve juste avant 14h. A tout à l'heure.
Vous aimez les histoires bien racontées, les affaires non élucidées, la guerre froide et ses espions. Lisez Ingrid Asson, Les lendemains qui chantent aux éditions Métellier.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Beaucoup de nuages cet après-midi.
Oh oui, le ciel restera bien chargé sur la majeure partie du pays. Les nuages seront épais le long des Pyrénées, sur la façade atlantique et entre le Languedoc et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et l'après-midi sera émaillé d'averses ou de passages pluvieux. Les averses seront d'ailleurs plus nombreuses sur les Cévennes. Entre la Bretagne, la Basse-Normandie, l'Île-de-France, la Lorraine et l'Alsace, seules quelques gouttes s'échapperont. Sur le reste du pays, la couche nuageuse sera un peu plus morcelée. Elle laissera même passer quelques éclaircies. Le soleil arrivera d'ailleurs à faire de belles apparitions en Corse, entre la Seine-Maritime et les Ardennes, et entre le Berry, le Jura et les Alpes du Nord. Il faut malgré tout s'attendre à des averses, notamment près du Massif central, en Bourgogne, vers le Midi toulousain, ou encore sur la façade orientale de la Corse. Au nord de la Seine et près des frontières de la Lorraine, les maximales sont proches des normales de saison, variant entre 5 et 10 degrés. Partout ailleurs, les températures de cet après-midi sont nettement au-dessus des normales de saison, avec 9 à 17 degrés. On attend 11 degrés à Nantes, ou encore 14 degrés à Bordeaux, Toulouse et à Nice. Puis avec ces températures assez élevées, la limite plus neige se situe vers 1500 mètres sur les Alpes du Sud et les Pyrénées.
Sébastien Léas, Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
On n'a pas fini de mesurer dans notre pays les effets de la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous avons hier ici même parlé des effets sur la défiance des Français vis-à-vis de la politique. Aujourd'hui, ses conséquences sur l'industrie avec ce coup d'arrêt. Pour la première fois depuis 2020, on a fermé plus d'usines qu'on en a ouvert l'an dernier dans notre pays. Et cela s'explique en partie par le choc qu'a représenté la dissolution suivie de la difficulté pour la France d'adopter un budget. C'est ce que nous apprend l'étude que publie aujourd'hui le journal L'Usine Nouvelle et le cabinet Trendéo, dont vous êtes le fondateur. Bonjour David Kousker.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Nous allons détailler ces résultats dans les prochaines minutes, voir aussi si ce trou d'air est passager, s'il y a des motifs d'espoir. Et puis nous allons confronter vos chiffres, ces chiffres, avec les impressions des auditeurs du réseau Ici Ex-France Bleu. Bonjour Géraldine Oudéyé.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef adjointe pour Ici, chargée du numérique. Et ce matin, vous avez demandé à vos auditeurs de vous appeler pendant une heure sur toutes les antennes du réseau pour qu'ils s'exprime sur les fermetures et sur les ouvertures d'usines, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. Dans les 44 antennes locales du réseau Ici, on avait des émissions spéciales. Alors, il y avait les matinades spéciales et puis après, il y avait des émissions spéciales de 9h à 10h où on a eu à peu près 200 témoignages en fait, d'auditeurs qui ont été reçus dans toutes les locales.
Et vous avez pu faire un résumé de leur appel grâce à l'intelligence artificielle, voir un petit peu s'il y avait une carte finalement des ressentis des Français qui se dessinaient ?
Oui, alors en fait, on a utilisé plusieurs outils d'intelligence artificielle qui nous ont servi à faire une synthèse de ce qui se passait dans chaque émission. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire humainement. Hein. On ne peut pas en une demi-heure écouter 44 heures d'émission et en sortir la synthèse, évidemment. Donc en fait, ça nous aide. Après, nous, on va chercher dans ces synthèses en fait, des points qui nous intéressent. On confronte aussi avec, par exemple, vous l'avez dit, hein, moi je travaille sur le numérique, donc tous les reportages qu'on voit sur le site internet du réseau Ici, en fait, où on voit les reportages de toutes les locales. Et donc oui, ce que je peux vous dire, en fait, c'est que les témoignages reflètent hein, cette crainte, cette inquiétude face à l'avenir qu'on ressent un petit peu partout.
Ce qui nous donne donc deux cartes. Il y a celle du ressenti, vous allez nous retracer Géraldine Oudéyé, et puis il y a celle du réel, l'évolution de l'industrie en chiffres. On va commencer précisément par la réalité. David Kousker, je le disais, c'est un retournement. Parce que depuis 2020, on ouvrait davantage d'usines qu'on enfermait dans notre pays.
Oui, même depuis 2016, puisqu'en 2020, on était encore en positif, même si on a flirté avec le zéro, avec le Covid. Ce qui se passe, c'est que la tendance était un peu à la baisse depuis la fin 2022, mais ça a baissé doucement. Et là, à partir de mars, avril, puis la dissolution, il y a eu à la fois une augmentation des fermetures d'usines, des décisions négatives. On revoit venir des grosses fermetures lourdes de sites à 150-250 salariés qui étaient assez exceptionnels. Là, ça devient vraiment très régulier.
On n'avait plus de gros plans sociaux comme ça.
Ça avait beaucoup baissé.
Ouais.
Là, ça redevient régulier. On n'est pas encore au niveau de 2009, mais c'est quand même soutenu. Et ce qu'on voit moins, c'est dans le même temps les décisions qui ne sont pas prises. C'est-à-dire que y a une baisse des annonces d'investissement, il y a moins de projets. Et ça, c'est moins douloureux, mais à terme, c'est tout aussi difficile pour l'économie.
Quand je regarde le contexte, les prix de l'énergie aujourd'hui sont moindres qu'il y a quelques années, David Kousker. Ça paraît être plutôt favorable pour l'investissement. Mais c'est vraiment la décision politique, là, la dissolution, et puis après la difficulté d'adopter un budget qui a cassé cette dynamique.
Y a beaucoup d'éléments de l'économie qui dépendent de décisions politiques. Par exemple, tout ce qui est décarbonation, promotion du véhicule électrique. Beaucoup de ces mouvements sont propulsés par des décisions législatives. Et quand il y a des incertitudes sur la pérennité de ces mesures, évidemment, l'économie hésite. Ne sait pas, notamment quand on parle par exemple de repousser l'objectif de 2035 pour le véhicule électrique. Pour les constructeurs, ça crée une incertitude, même si entre eux, ils ne sont pas forcément d'accord. Donc il y a beaucoup de décisions qui sont liées au contexte politique et quand il est incertain, c'est plus difficile de décider positivement.
Alors, de nombreux auditeurs, près de 200, c'est ce que vous nous avez dit, Géraldine Oudéye, ont appelé ce matin les antennes du réseau ici. C'est ce que vous avez fait. Régis Aimé, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes délégué syndical central CGT au sein de l'usine Arkema dans le département de l'Isère. Plan social chez vous, plus de 150 suppressions d'emplois, c'est bien cela. Pour quelles raisons est-ce que Arkema confirme ces suppressions de postes chez vous et pourquoi avez-vous appelé ce matin ?
Oui, tout à fait. Alors, ce que vous appelez, vous, plan de suppression PSE, plan de suppression d'emplois. Nous, on en parle plutôt plan de destruction d'emplois. Tout simplement, il faut simplement comprendre que sur le sud grenoblois, il y a un passé industriel très important avec une plateforme de pont de clé avec une entreprise qui s'appelle Vancorex qui a été mise en redressement judiciaire depuis le mois de septembre. Et cette société Vancorex est le principal fournisseur de sel à haute purification de l'usine Arkema Jarry.
Qu'est-ce que vous produisez, monsieur Aimé ? Qu'est-ce que vous produisez ?
Alors, sur Jarry, on produit du chlore qui sert à trois clients qui sont RTE, qui sont l'industrie nucléaire et l'industrie aussi de la défense et Ariane. Donc, comprenez bien qu'aujourd'hui, avec l'annonce de la fermeture de la moitié de l'usine de Jarry, on va perdre toute la souveraineté nationale en matière d'énergie, de sécurité nationale, mais aussi du nucléaire.
Avec des conséquences larges, parce que quand un emploi est supprimé dans une famille, évidemment, il y a d'autres emplois qui sont impactés.
Oui, tout à fait, bien sûr. Nous, on estime, c'est pas nous, c'est pas nous la CGT, c'est des études faites par des économistes qui disent qu'un emploi industriel supprimé, c'est 5 à 6, voire 7 emplois directs et indirects allés jusqu'aux induits quand on parle de fermeture de classe, fermeture d'école, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, un salarié qui perdrait son emploi, pas typiquement sur Jarry ou sur Vancorex, derrière, c'est des familles entières qui vont peut-être travailler ailleurs. Donc, un salarié, c'est, admettons, une famille avec un époux, une épouse, deux enfants. Ça fait déjà 4 personnes qui vont partir du bassin économique. Derrière, c'est aussi des emplois industriels supprimés. Derrière, c'est des emplois directs, c'est-à-dire des entreprises extérieures qui interviennent pour faire la maintenance dans ces industries. Donc
des conséquences plus larges, évidemment, que les seuls emplois concernés. Merci Régis Aimé d'avoir été avec nous dans ce 13-14. Je me tourne vers vous, David Kousker. Là, on a un bassin d'emploi qui est particulièrement concerné. Quand on regarde la carte en fait, des régions qui souffrent le plus, là, on est en plein dedans.
Les bassins d'emploi, c'est souvent micro, c'est-à-dire que autour de Grenoble, il y a un gros point chimie, mais c'est pas toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ouais.
Et ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est que Arkema n'a pas de problème de débouché, puisque le RTE, le nucléaire, la défense, c'est des secteurs qui sont en plein développement avec la relance du plan nucléaire. La défense, il y a malheureusement une augmentation de la production et de la demande. Là, c'est un problème de fournisseur et ça montre bien les questions de dynamique et d'interrelation entre les différentes entreprises. Là, si on a un tissu industriel qui s'approuvait, tout le monde est touché, même les entreprises qui vont bien et qui ont un marché.
Donc c'est plus compliqué que simplement la commande.
ça montre que quand ça va mal, les effets s'enchaînent en fait. Et tout va mal, même pour des entreprises qui elles, vont bien. Donc il y a un intérêt en sens inverse à remonter l'industrie et à pas lâcher le sujet de la réindustrialisation.
Alors ça, ce sont des dossiers qu'on suit, évidemment. Arkema fait régulièrement la une de l'actualité, mais l'intérêt aussi de ce dispositif, Géraldine Oudéyer, c'est d'identifier des difficultés qui peut-être nous échappent. Et je crois que ce matin, les auditeurs de Dordogne ou de Charente ont signalé, par exemple, des difficultés dans l'imprimerie, dans la papeterie.
Oui, c'est ça. Alors, c'est des dossiers qui sont beaucoup suivis hein, par nos antennes locales, vraiment au quotidien, et dont on parle pas forcément sur les grands médias nationaux. On avait l'exemple donc ce matin de la papeterie Leca en Charente, elle produisait des agendas Oxford, mais le propriétaire, le groupe Hamelin, délocalise en Turquie, en Serbie, en Tunisie. Le résultat, c'est 69 salariés licenciés. Et on a Philippe hein, qui nous a appelé, c'est l'un des derniers délégués CGT sur place. À 57 ans, il dit que c'est pas facile de se projeter. Sa femme, elle travaille aussi dans l'entreprise. Et lui, ce qu'il dit, c'est face à un SMIC à 200 euros en Turquie, on peut vraiment pas lutter.
Est-ce que on a vraiment une carte de France David Kousker très nette, ou bien est-ce qu'on a un mélange finalement? Toutes les régions ont des fermetures et des ouvertures d'usines. Est-ce qu'il y a une France qui souffre davantage qu'une autre de ce retournement de tendance constaté l'an dernier?
Par définition, les grandes régions industrielles, les Hauts-de-France, le Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, l'Île-de-France aussi, on oublie que c'est une région où il y a eu de l'industrie, même s'il y a moins d'ouvertures, mais il y a quand même un passé industriel et un stock d'industrie installé assez fort en Île-de-France. Quand l'industrie va mal, les régions fortement industrielles sont touchées. Mais on voit secteur par secteur, l'imprimerie c'est un cas typique, c'est un secteur qui va structurellement mal depuis 2009, qui perd des emplois, parce que les gens utilisent moins de papier. Il y a eu la faillite de Mili à Drexo qui faisait des pubs papier distribués par boîte aux lettres. Donc il y a moins de papier et ça, c'est l'imprimerie, c'est partout dans toute la France. Des petites imprimeries de 20-30 personnes qui ferment parce que structurellement, le marché est à la baisse.
Vous avez aussi eu ce matin sur les antennes d'ici des appels de patrons, c'est votre cas, José Géronès. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes installé à Lanneville, devant Nancy. Vous êtes chef d'entreprise dans les bâtiments et travaux publics. Et vous, votre témoignage, c'est autour de la difficulté de recruter, malgré un taux de chômage qui est reparti à la hausse dans notre pays.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, nous, le travail, il y en a. Il y en a. Dans notre secteur d'activité, on a du boulot, mais
vous recrutez.
Peine à recruter. Ouais. On trouve personne de motivé et on subit l'après-Covid où les gens se repositionnent leurs priorités et ils hésitent, ils pensent d'abord au temps libre avant de chercher un emploi quoi, ou un emploi stable. Et ils ne sont manque de motivation pour couvrir les postes qu'on a quoi.
C'est pas un problème de conditions de travail ou de salaire?
Non, c'est pas une histoire de salaire, puisque chez nous, on est une petite PME, et contrairement au groupe, on n'a pas de panier, c'est pas une histoire de panier, on n'a pas de compteur d'heures, puisque toutes les heures sont payées automatiquement. Donc, ils ont des beaux salaires, mais c'est la pénibilité, et les gens n'ont pas forcément envie de s'investir dans un emploi compliqué, quoi.
Merci d'avoir été en ligne avec nous, José Géronès. Géraldine Oudéyer, est-ce que vous avez d'autres appels comme ça ce matin, également de chef d'entreprise, pour dire on embauche ou on a des difficultés pour recruter?
Ah oui, il y en a. Alors on le sait, il y a des régions où ça embauche. On parle souvent du Cotentin avec le nucléaire et puis Naval Group qui fabrique les sous-marins nucléaires. Il y a aussi par exemple tout le secteur de l'agroalimentaire qui recrute en Mayenne. Il y a 7000 personnes qui travaillent dans ce secteur-là. Et ce matin, on avait des reportages et des appels donc avec l'entreprise Bridor qui fabrique du pain, des viennoiseries industrielles. Ils cherchent une quinzaine de salariés pour leur ligne de production. Il y a déjà 500 personnes qui y travaillent.
Dans les secteurs qui fonctionnent bien, il y en a un auquel je n'aurais pas forcément pensé, ce sont les chaussures de sécurité. Bonjour Nathalie Gascon.
Bonjour.
Vous travaillez pour une entreprise qui est installée dans le département de Lozère et qui recrute et qui fonctionne. Dans le Gard, et qui recrute et qui fonctionne bien.
Qui recrute et qui fonctionne bien, oui, qui a eu des mauvais moments, mais qui est bien reparti depuis 2014 et qui actuellement fonctionne très bien, oui. Il y a plus que 80 employés par rapport à ce que j'ai connu, puisque j'ai bossé 41 ans dans cette entreprise et que tout au début, il y avait plus d'usines et plus d'emplois. Mais l'entreprise a été sauvée en 2014 par le rachat d'un actionnaire dans l'industrie aussi. Et depuis, on ne fait que progresser, effectivement.
Je ne connais pas Saint-Hippolyte-du-Fort, mais 80 salariés dans une commune comme la vôtre, c'est important?
Oui, c'est important. C'est sûr que c'est important. Oui.
Merci. Allez-y, je vous écoute.
Oui, non, je veux dire, la ville fait dans les 3000 et quelques habitants. Et c'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup plus d'employés sur Saint-Hippolyte-du-Fort avec Jalatte. Mais c'est encore très important et il faut que ça continue. Et le nouveau DG fait en sorte de protéger l'emploi sur notre site. Donc c'est très bien que ça continue.
Merci pour votre témoignage. La Lozère, l'Isère, la Meurthe-et-Moselle, on a fait un tour de France plutôt complet. Merci Géraldine Oudéyer du réseau ICI d'avoir relayé ce ressenti des Français aujourd'hui vis-à-vis de l'industrie dans ce 13-14. Merci également à David Kousker du cabinet Trendéo, 13h45 sur Inter. Une semaine dans la vie d'une mairie, celle de Chartres, qui joue à fond la carte de l'intelligence artificielle. Nouvelle illustration dans ce troisième épisode. Les agents municipaux sont incités à utiliser les outils de l'IA, notamment pour rédiger les courriers, gain de temps et d'inspiration.
Quand on a un courrier à rédiger, on est souvent dire « il faut que j'écrive un machin, c'est sur ma liste ». Puis le lendemain, « oh là là, j'ai toujours pas écrit ». Comment je commence? Comment je finis ? Là, moi, j'ai eu cette bonne expérience-là récemment. J'ai mis mon petit paragraphe sur ChatGPT. Écrire un courrier au service de l'État. Nous sommes la ville de Chartres, nous leur demandons tout un tas de choses. Étant donné les contraintes que ça engendre, donc un petit paragraphe. Il m'a généré un courrier. J'avais l'objet, j'avais ma structure de courrier impeccable. Hop, j'ai dû lui mettre un petit pouce pour lui dire que j'étais contente. Voilà. Je suis Marlène Lebrun, je suis chef de projet aménagement urbain à la ville de Chartres. Du coup, ça devient d'un exercice qui est pour nous un service technique rébarbatif. Ça devient ludique. Enfin, alors, je ne veux pas dire qu'on s'amuse comme des petits fous, mais c'est presque un jeu, en effet, d'utiliser ça pour l'instant. J'avoue que pour moi, c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Ça faisait un peu peur même. Et j'aurais pas su comment commencer si j'avais pas eu directement ces petits outils sur l'intranet.
Oui, c'est ça.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis Foulque de Lédingan. Je suis le directeur de cabinet de Jean-Pierre Gorge depuis 2020. Au départ, c'était pas forcément évident dans une mairie de se dire qu'il fallait de l'IA. Et en fait, en regardant toutes les possibilités, en explorant un petit peu les possibilités de l'intelligence artificielle, notamment générative, on s'est rendu compte que ça pouvait apporter beaucoup de confort au travail pour les agents. Voilà, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, on pourrait toujours avoir notre métier, faire nos métiers sans téléphone portable. Ça pourrait être un choix. On pourrait se dire, tiens, on va faire notre métier sans utiliser d'ordinateur. Ça pourrait être un choix. Mais là, ce sont des choix de vie. Le problème, c'est qu'on voit bien que c'est de plus en plus compliqué. Moi, je suis persuadé que demain, un agent qui, dans sa carrière future, qui fera peut-être en dehors d'ici, on ne sait pas, s'il arrive dans quelques années qu'il ne sait pas maîtriser l'intelligence artificielle, il aura beaucoup plus de difficultés à défendre son employabilité. Alors, ce que nous sommes en train de créer, alors c'est vraiment en cours de déploiement, c'est un assistant virtuel pour leur permettre de rédiger l'ensemble de leurs réponses aux citoyens. Par exemple, je vais vous dire « Bonjour, j'ai un problème avec un arbre qui est en train de tomber sur ma maison, s'il vous plaît, intervenez. » Voilà, le courrier est adressé au maire ou au service ou à la ville. Tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Alerte, les espaces verts viennent, il va y avoir un certain nombre d'opérations, de terrain. Mais après, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on est intervenu, c'est qu'on fasse le compte-rendu à l'administré pour lui dire « Cher monsieur, merci de nous avoir signalé l'arbre qui était mort à côté de notre propriété. On a bien pris en compte, on est tout de suite intervenu. » Demain, ce qu'on fait, c'est qu'on a carrément une plateforme IA. C'est-à-dire que le courrier, il arrive dans la plateforme IA. La plateforme IA, elle dit au service « Attention, il faut intervenir. » Quand ils sont intervenus, ils disent « Fin de l'intervention. » Et là, à ce moment-là, l'IA rédige elle-même le courrier. Il n'y a plus d'intervention humaine, il y a juste en fait le courrier qui est immédiatement transmis à l'élu pour signature, mais en fait, il n'y a plus d'étape, si vous voulez, rédactionnelle, où la personne va prendre le texte de GPT, le remettre en forme, etc. etc. L'idée, c'est que l'IA rédige directement la réponse au citoyen pour qu'elle soit le plus rapide possible et qu'on soit vraiment dans l'immédiateté. Tous les agents dans la fonction publique territoriale vous diront quelle corvée c'est, les parapheurs, les allers-retours qu'ils font aujourd'hui avec des parapheurs. Il y a des choses qui sont complètement absurdes. Et c'est pénible. Et ça, on leur enlève.
L'Aurélie qui arrive et Stéphane Ronxin pour la réalisation de ce feuilleton.
France Inter, le 13-14.
c'est la France. À 13h49 le mercredi, le regard d'Éric Fotorino. Éric, vous voulez aujourd'hui raviver le souvenir de Jean-François Kahn, disparu le 22 janvier dernier. Quelle trace durable a-t-il laissé en vous ?
Alors, comme dans la chanson ancienne de Serge Lama, je dirais pour recommencer que Jean-François Kahn était mon maître et mon ami, ou mon ami et mon maître. Je vous parle d'un temps que les moins de 2x20 ans ne peuvent pas connaître, car cette année-là, en 1984 exactement, il m'avait, sans rien savoir de moi ou presque, offert mon premier job de journaliste à l'événement du jeudi. L'hebdomadaire qu'il créait avec une petite équipe, issue pour beaucoup du magazine Les Nouvelles Littéraires. Ce média, d'un genre nouveau, JFK comme on ne l'appelait pas encore, ne voulait le situer ni à droite ni à gauche, mais dans un espace libre et dissonant, il disait même, je crois, dissonanté, quelque chose comme la quadrature du cercle qu'il finit par désigner par un ailleurs introuvable, l'extrême centre, une sorte d'en même temps avant l'heure qui l'amena d'ailleurs plus tard à soutenir celui qui incarnait à ses yeux cette utopie, un certain François Bayrou. Fou de musique, de chansons françaises, d'opérettes et de Victor Hugo, Jean-François Kahn écrivait certains de ses éditos en alexandrin, cher Jérôme.
Et s'il avait... On va y penser, nous, peut-être.
On va essayer. Et s'il avait appelé son hebdo l'événement, c'était en référence directe au quotidien du même nom que l'auteur des Misérables avait lancé en janvier 1848, d'abord pour soutenir la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence, avant de s'en détourner vigoureusement pour lancer une grande campagne contre la peine de mort.
En quoi JFK, donc, puisque c'était son surnom, n'était-il pas un journaliste comme les autres ?
Si je tiens à évoquer la mémoire de mon premier patron, c'est pour honorer cet extraordinaire journaliste qui avait tout pour lui. L'énergie communicative, l'enthousiasme contagieux, l'audace de penser la presse hors des cadres et des modèles, un sens du verbe et du geste qui le portait lors de célèbres émissions d'alors, comme Droit de réponse animé par Michel Pollack, à une sorte d'ébriété verbale saisissante qui laissait l'impression que ses mots couraient sans cesse après ses idées. JFK était un curieux en majuscule, un curieux sans limite, toujours à l'écoute de ce qui était nouveau, et aussi toujours attentif aux idées et aux points de vue qui n'étaient pas les siens, et grand pourfendeur de la bêtise d'où qu'elle vienne. Il avait le sens de l'actualité, du contre-pied, de l'imprévu. Il n'aimait rien tant que réunir autour de lui des journalistes et des écrivains, des philosophes, des férus de poésie, de faits divers et de politique. On ressortait galvanisé de ses conférences de rédaction, nos vêtements imprégnés de fumée de cigarette, mais l'esprit tout sauf fumeux.
Il vous a inspiré quand vous avez lancé il y a quelques années le 1 Hebdo ?
Et oui, cette intuition devenue conviction que pour réussir dans la presse, il ne fallait rien faire comme tout le monde. Avec l'événement du jeudi, Jean-François Kahn créa par exemple une communauté de 18 000 lecteurs au statut de fondateur et d'actionnaire qui permirent à son journal de lancer bien avant les fonds sur les plateformes participatives son projet. Il avait aussi compris que l'information avait un prix et alors que les hebdomadaires coûtaient une quinzaine de francs, il avait d'emblée fixé le sien à 20 francs, ce qui ferait un peu plus de 3 euros. Quand on lui demandait « ce n'est pas trop cher Jean-François ?», il nous répondait « nous serons le seul journal qui ne rend pas la monnaie ». Et il répondait dans un rire tonitruant, et c'est ce rire comme le vôtre, cher Jérôme, comme celui de son frère et complice, le généticien Axel Kahn, disparu en 2021, qui me manque beaucoup aujourd'hui.
Merci Éric. À la une du 1 cette semaine, très
Alors,
vite.
Alors, le capitalisme va-t-il tuer les démocraties ?
Merci Éric Fotorino. Vous parliez de Serge Lama, que l'on salue. Il a fêté hier son 82e anniversaire. Voilà une transition pour C'est une chanson et Frédéric Pommier. Avec vous aujourd'hui, Frédéric, l'actrice Alice David.
On peut la retrouver dans la nouvelle saison de la série Bref, qui débarquera vendredi sur Disney+, une saison 2, 14 ans après la saison 1. Et c'est le groupe anglais de musique électro Goldfrapp qu'Alice David a souhaité que l'on écoute avec le morceau « Dear Stop » qu'elle a découvert à l'âge de 18 ans.
J'étais à ce moment-là en terminale et pour la première fois, je vais faire du théâtre. C'est un atelier, une option théâtre. On a monté une pièce qui était géniale, qui était une pièce de Thomas, 8 femmes, dont François Ozon s'est inspiré pour le film. Il y avait donc une surveillante qui nous encadrait un peu, qui s'appelait Lise, qui était incroyable.
C'est elle qui donnait les cours ?
Elle donnait pas vraiment des cours, en fait. Le CPE nous disait « bon, bah, vous faites votre truc ». Et puis elle était là, un peu en garde-fou, mais elle nous laissait faire ce qu'on voulait. Donc on avait une metteuse en scène, et on était 8 comédiennes, et on a monté ça pendant l'année. Et à ce moment-là, j'écoutais en boucle cette chanson pour me calmer avant de monter sur scène.
Donc cette chanson, pour vous, elle est liée à cette première expérience
elle
de théâtre.
Elle est liée carrément, j'ai envie de dire, même à cette année qui m'a mis concrètement les pieds dans le métier d'actrice. C'est à ce moment-là où je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire.
And I want to go.
Ce morceau est sorti en 2000, Frédéric, sur Felt Mountain, le premier album de Goldfrapp.
Un album qui a donc accompagné l'année de terminale d'Alice David, qui n'avait pas un goût très prononcé pour les études.
C'est-à-dire que moi, j'étais pas quelqu'un qui aimait l'école. J'étais pas trop dissipée et tout ça, mais j'étais plutôt au fond de la classe, près du radiateur, assez rêveuse. J'écoutais beaucoup de musique. Et du coup, ça me saoulait, quoi. Enfin, fallait que je passe mon bac, parce qu'on m'a dit, faut que tu passes ton bac et tout ça, mais j'attendais qu'une seule chose, c'est que ça se termine, quoi.
Cette chanson, il vous est arrivé de l'écouter pendant les cours ?
Oh, tellement de fois. Ah ouais, ça, ouais. Bah, tout cet album, en vrai. J'avais un iPod à l'époque. C'était les premiers iPods et tout, j'étais trop fière. Et je le coinçais dans mon jean, et je faisais remonter le câble, je le passais dans la manche, et je l'avais du coup dans la main. Et j'appuyais ma tête sur ma main et j'avais mes écouteurs comme ça.
Ce bac, vous l'avez eu ?
Oui, je l'ai eu.
Cette chanson, est-ce que c'est important ce qu'elle raconte ?
Alors, moi, à l'époque, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire.
C'est une femme qui recherche le grand amour.
Bah voilà. Bah ouais. Bah moi, c'était mon amour du théâtre qui est arrivé avec cette chanson, je pense.
Et après le grand amour, il est arrivé ?
Il est arrivé. Plein de fois. Ouais.
C'est chouette.
Ouais, c'est bien. Ouais. Ça me fait rougir, carrément.
Vous diriez que c'est quoi le grand amour ?
Ben, j'ai l'impression que c'est quelque chose où on se sent bien. Ce serait comme une maison où on est bien et où on rentre quand on a besoin d'être bien. J'ai jamais fait la métaphore de la maison pour l'amour. C'est vraiment inédit. J'étais à une fête, d'ailleurs. Enfin, un dîner avant d'aller faire une fête. Et il y a cette chanson qui est passée. Et j'étais chez des gens qui sont plus jeunes que moi. Et je me suis dit, très marrant que ça passe.
Et ça vous a fait du bien de l'entendre comme ça surgir ?
Ah ouais, j'étais trop contente. Je me suis dit, oh là là, j'avais l'impression de revenir 1000 ans en arrière et de me dire, waouh, elle a une voix incroyable. Et en même temps, il y a un truc profondément romantique et intense. Et voilà, je l'adore. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose d'hyper étrange. Il y a cet envolé à la fin dans un cri. Enfin, ça me met toujours aujourd'hui encore les poils, vraiment.
Stop de Goldfrapp, c'était donc Frédéric, le choix d'Alice David.
Alice David que vous pourrez retrouver dans la deuxième saison de la série Bref, qui sera diffusée à partir de vendredi sur Disney+.
Merci Frédéric. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
Quel est le programme aujourd'hui ?
La Terre face aux astéroïdes.
À tout de suite.